Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, avec le journal dans quelques secondes. 19h15, le parti pris de Philippe Manière. C'est la dernière mode à Wall Street, nous dira-t-il. Les entrées en bourse, mais pas toujours justifiées, vous comprendrez pourquoi. 19h20, le grand débat. Pas de blabla ce soir, mais un plateau de grands chefs pour réussir son réveillon. Foie gras, fruits de mer, bûche ou fondant, comment choisir? Et quel bon vin marier avec tout cela? Vous allez voir qu'il est même possible de se faire livrer le tout à domicile, presque sans rien faire. Oui, oui. N'est-ce pas Isabelle Millet?
Oui, oui.
Le journal avec vous. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Le Covid tue 3 fois plus que la grippe saisonnière.
Une très sérieuse étude a comparé les données de 130 000 patients hospitalisés.
Emmanuel Macron rassurant sur son état de santé.
Le président dit aller bien, aller mieux et continue à travailler un peu au ralenti.
Tandis qu'aux États-Unis, Mike Pence se fait vacciner devant les caméras, vice-président de celui qui disait, souvenez-vous, que le Covid n'existait pas.
Le top départ ce soir des vacances.
Des vacances que vous passerez à la maison pour la plupart d'entre vous, mais pour ceux qui ont vraiment besoin de soleil, l'outre-mer vous tend les bras. Les Antilles retrouvent leurs touristes, elles sont bien les seuls.
Des écarts allant jusqu'à 86%, les tarifs des assurances auto n'ont rien à voir que vous habitiez dans les Deux-Sèvres ou dans le pourtour méditerranéen.
Oui, rien à voir du tout, on essaiera de comprendre pourquoi. Et puis le handball, les Bleus au féminin, en bonne voie pour la finale de l'Euro. Elles dominent actuellement la Croatie 19-12.
La tendance météo avec Anissa qui nous annonce, tenez-vous bien, un temps plus gris pour ce début de vacances scolaires.
Oui, le ciel va alterner demain entre nuages éclaircis et averses. Une perturbation va traverser tout le pays, personne ne sera épargné. Les températures restent, elles, toujours très douces.
Et vous dites ça avec le sourire, vous.
J'essaye, oui. Les températures seront douces et je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On a longtemps dit au début que le Covid n'était qu'une petite grippette. On a donc aujourd'hui des chiffres, Mathieu Charrier, qui prouvent le contraire.
Oui, les chercheurs de l'INSERM ont étudié le cas de 135 000 patients hospitalisés partout en France, soit pour grippe saisonnière, soit pour Covid. Et les résultats sont sans appel. Sur 90 000 malades hospitalisés pour Covid, un peu plus de 15 000 en sont morts, ça fait 17%. Sur 45 000 hospitalisations pour grippe, il y a eu 2 600 morts, c'est seulement 6%. Autrement dit, pour des malades hospitalisés, le Covid tue 3 fois plus que la grippe. Ce qui tord donc une nouvelle fois le cou à cette idée défendue par certains au début de l'épidémie que ce Covid serait une simple grippette. Autre enseignement de l'étude, les patients atteints du Covid sont plus nombreux à finir dans les services de réanimation que ceux atteints de la grippe et ils y passent plus de temps, 15 jours en moyenne contre 8. En revanche, il y a eu moins d'enfants et d'adolescents hospitalisés pour le Covid-19 que pour la grippe, ce qui confirme là encore que les enfants font des formes plus bénignes. L'INSERM qui rappelle en conclusion qu'aucun traitement ne s'est encore avéré efficace pour lutter contre le Covid-19.
Précision de Mathieu Charrier.
Pour Emmanuel Macron, c'est bien la Covid et pas la grippe.
Oui, le président qui se veut rassurant aujourd'hui sur son état de santé dans une vidéo qu'il a publiée cet après-midi sur Twitter. Je vais bien, je continue à travailler un peu au ralenti. Emmanuel Macron confiné dans la résidence présidentielle de la Lanterne qui promet de rendre compte chaque jour de l'évolution de la maladie.
Vous faites peut-être partie de ces chanceux qui sont en vacances à partir de ce soir.
Seulement un Français sur deux qui avait prévu de partir va vraiment le faire en cette fin d'année. On est donc loin du gros rush habituel.
Oui, alors il y a plusieurs raisons à cela. Évidemment, la crainte de contaminer ses proches, bien sûr. Les restaurants, les bars fermés, ça incite à moins voyager. Et puis pour ceux qui vont habituellement à la montagne, la fermeture des remontées mécaniques.
Et tout le monde ne va pas enfiler des pots de phoque comme vous, Julien. En tout cas, la seule destination qui va avoir le même nombre de touristes cette année, ce sont les Antilles, comme le confirme Jean-Pierre Mas, il est président des entreprises du voyage qui rassemblent notamment les agences de voyage.
Ça s'explique par les mouvements naturels que l'on appelle affinitaires des populations antillaises qui travaillent en métropole ou métropolitaine, qui rejoignent leur famille aux Antilles ou à La Réunion, et par un flux touristique qui est redevenu presque normal, pas tout à fait normal, presque normal à destination de l'outre-mer, parce que l'outre-mer c'est la France, parce qu'en outre-mer on sait qu'on ne sera pas pris en otage si la frontière est fermée, et parce qu'en outre-mer on sait que si on était malade malheureusement, on serait soigné par des médecins français dans un milieu hospitalier, un environnement hospitalier et médical qui est le même que celui de la France.
Jean-Pierre Mas, le président des entreprises du voyage qui sera l'invité de l'interview Écho d'Emmanuel Duteil ce soir, c'est à 22h20 dans Europe Nuit, présenté commencer par Julien Pierce. Notez que l'Autriche annonce un troisième confinement généralisé à partir du 26 décembre pour tenter d'endiguer la pandémie qui repart de plus belle.
Aux États-Unis maintenant, où la pandémie bat des records, plus de 3000 morts par jour et des hôpitaux saturés dans plusieurs États. Aujourd'hui, le vice-président américain Mike Pence s'est fait vacciner devant les caméras.
Et on vous retrouve Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Effectivement, c'était une vaccination en grande pompe devant l'objectif des caméras.
Oui, et à une heure de grande écoute, en pleine matinale, le vice-président a été vacciné en compagnie de sa femme et de l'administrateur de la santé publique américaine. « Je n'ai rien senti, bien joué », ce sont les premiers mots de Mike Pence. Il a salué le travail des chercheurs et des médecins et tenté de rassurer les Américains.
L'espoir est en marche. Ne vous méprenez pas, c'est un miracle médical. Et je crois que l'histoire se souviendra de cette semaine comme le début de la fin de la pandémie de coronavirus. Les Américains peuvent être confiants, nous avons un vaccin sûr et sans danger, et peut-être un deuxième dans les heures qui viennent pour vous et votre famille.
Et Alexis, le second vaccin dont parle Mike Pence, c'est celui de Moderna. Et ce soir d'ailleurs, Donald Trump a pris le devant et a annoncé son autorisation.
Oui, et ça fait partie des paradoxes de cette administration Trump, minimiser la réalité de la pandémie tout en se félicitant de l'arrivée du vaccin. Alors dans un tweet ce matin, le président a expliqué que le vaccin de Moderna a été largement approuvé et que la distribution allait commencer immédiatement. Mais dans les faits, on attend l'accord officiel dans la journée de la FDA, l'agence des médicaments. Si le feu vert est donné, ce sont près de 6 millions de doses supplémentaires qui vont s'ajouter au stock américain dès la semaine prochaine. Et Mike Pence, ce matin, a rappelé l'objectif de la Maison-Blanche, vacciner 20 millions d'Américains d'ici la fin de l'année.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
En France, le ministre de l'Intérieur a reçu aujourd'hui les syndicats de policiers et de gendarmes en vue du fameux Beauvau de la sécurité prévu en janvier.
Et Allianz et l'UNSA, qui avaient annoncé ne pas vouloir y participer, ont finalement obtenu des garanties, Justin Morin.
Effectivement, les représentants des deux syndicats sont sortis globalement satisfaits de leur entretien avec le ministre. Gérald Darmanin leur a donné sa parole sur certains points essentiels, des subventions pour payer une partie de la mutuelle des policiers, la gratuité des transports à l'horizon 2022 par exemple, des engagements qu'attendait le syndicat Alliance, majoritaire chez les gardiens de la paix. Mais Fabien Van Emmelrich, le secrétaire général, laisse encore planer le doute sur sa participation au Beauvau de la sécurité.
On n'est pas du genre à croire au Père Noël, donc on nous a fait des mesures concrètes. Maintenant, il y a la mise en application de ces mesures. Et une fois qu'on aura ça, on verra si on participera à ce grand débat de la sécurité.
Le ministre de l'Intérieur voulait aussi convaincre l'UNSA Police, notamment ce qui concerne la réécriture de l'article 24 de la loi Sécurité Globale, article qui concerne le floutage des policiers. Olivier Varlet, le secrétaire général du syndicat, confie qu'il en a bien été question.
Le ministre nous a confirmé aujourd'hui que cet article n'était pas enterré, qu'il était toujours d'actualité et que ça ferait partie des discussions. Pour nous, l'UNSA Police, c'est un des éléments clés qui fera qu'on participe à cette instance ou pas.
Donc, il y a eu un pas en avant, mais pour l'instant, rien n'est acté. Désormais, les deux syndicats attendent un courrier écrit de leur ministre en début de semaine prochaine pour prendre leur décision.
Justin Morin du service Police et Justice d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, la suite du journal. Alors, vous avez une voiture, sans doute, peut-être d'ailleurs, vous nous écoutez dans votre voiture en ce moment même. Vous avez donc une assurance auto. Tendez bien l'oreille.
Oui, parce que Meilleure Assurance, qui est un comparateur, vient de dresser une carte de France des tarifs. Et l'on apprend, Olivier Samin, qu'il vaut mieux être immatriculé 79 que 13. Hein.
Oui, si votre premier critère pour choisir votre lieu d'habitation en France, c'est le prix de votre assurance auto, alors aucune hésitation, installez-vous dans les Deux-Sèvres. C'est là qu'on paye le moins cher pour assurer sa voiture, 443 euros par an en moyenne, pour un couple de 36 ans avec deux enfants qui roule en Peugeot 3008. Le même couple, roulant dans la même voiture et optant pour le même contrat, paiera 827 euros s'il choisit d'habiter à Marseille, 86% plus cher. D'après le comparateur Meilleure Assurance, le pourtour méditerranéen, suivi de près par l'Île-de-France, sont les deux régions où les tarifs de l'assurance auto sont les plus élevés. Et à l'opposé, c'est dans les départements ruraux que les tarifs sont les plus doux. Les Deux-Sèvres donc, mais aussi la Corrèze, la Creuse, les Côtes-d'Armor ou encore la Vendée. L'explication est simple, moins il y a de voitures en circulation, moins il y a de risques d'accident. Et plus facilement, on peut mettre à l'abri sa voiture plutôt que de la laisser dehors en stationnement, exposée au risque de dégradation. Dans les départements urbains, c'est tout le contraire. Et, facteur aggravant, les voitures y sont généralement plus récentes, donc avec des coûts de réparation plus élevés. Tout ça, il n'y a pas de mystère. Ça se retrouve dans les tarifs.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Du sport, Julien. France-Croatie, c'est du handball, ça se passe en ce moment. C'est la demi-finale de l'Euro féminin et Christophe et Cyril de la Marinerie.
Ça aurait pu être Christophe
Lamarre.
Ouais,
non. Les bleus tenants du titre, favorites de cette compétition, sont bien parties.
Oui, elles sont très bien parties, effectivement. 24-13 pour les Françaises face aux Croates. Grande démonstration en première période, puisqu'à la mi-temps, elles avaient 10 buts d'avance, 15-5 contre la Croatie, avec une défense de fer et très peu d'échecs face au but. Une grande Siraba Dembélé, notamment la capitaine, qui emmène toute son équipe dans son sillage. Il faut dire que les Bleus sont favorites, elles sont les tenantes du titre. Elles ont très faim. Après la terrible désillusion du Mondial 2019, elles avaient terminé à la 13e place. Les joueuses d'Olivier Crumbles affrontent l'équipe surprise de ces demi-finales. Elles sont novices à ce niveau, hein. Les Croates, elles n'ont jamais atteint le dernier carré. Aucune médaille au palmarès. L'inverse des Françaises, double championne du monde, d'ores et déjà qualifiée pour les prochains Jeux Olympiques et pour le prochain Mondial. Et si elles se qualifient ce soir, alors qu'elles mènent toujours 24-13 et que l'on joue depuis 48 minutes dans cette seconde période, donc, eh bien, si elles se qualifient, elles affronteront en finale le vainqueur du match Danemark-Norvège qui se jouera donc ce soir à partir de 20h30. Et la finale, elle sera à 18h dimanche.
Merci beaucoup, Cyril de la Morinerie. Encore un mot pour vous dire qu'en athlétisme, Kevin Mayer est bien parti pour les JO en tête à l'issue des 5 premières épreuves de qualification. Il cumule déjà 4350 points. À mi-parcours, il lui en faut 8350 pour obtenir son billet pour Tokyo. Et puis le match de Coupe d'Europe de rugby entre... J'ai oublié entre qui et qui. Alors, je ne veux pas vous dire la suite de ma phrase.
Je ne peux pas vous aider. Toulon,
voilà, entre Toulon et les Gallois de Scarlett, c'est ça?
Oui, Scarlett, on dit aussi Clanecli, effectiment, et le match ne se jouera pas parce que l'équipe de...
en cas de coronavirus. Voilà.
Bien.
Voilà.
Et il s'appelle comment le journaliste, Isabelle?
Cyril de la Morinerie. C'est la fatigue.
Et
il est temps
vous
de partir en vacances.
Isabelle Millet, je vous souhaite un très bon week-end, de belles vacances. Reposez-vous bien. La météo avec. Comment vous appelez vous déjà? Anissa. Anissa, dans le sud-est, le week-end se déroulera sous la pluie demain.
Oui, dès demain midi et jusqu'à dimanche. Sur l'Ardèche, les Cévennes, le Gard et l'Hérault, attention, de fortes pluies sont attendues. Sur la Côte d'Azur, là, ce sont les orages qui éclatent demain et tout le week-end. Dans le Var, sur le Languedoc et sur les Cévennes, on attend jusqu'à 100 mm d'eau, l'équivalent de 15 jours à 3 semaines de pluie. Alors, même si ce sont des régions qui sont habituées à ces fortes pluies, soyez tout de même prudents dans le sud. Ailleurs, nous avons une perturbation qui traverse le pays demain. La moitié ouest sera touchée le matin et puis l'Auvergne, les Ardennes et la Bourgogne dans l'après-midi. Les températures toujours douces, 1 degré à Annecy, 7 à Paris, 10 à Marseille et 12 à Montpellier demain matin et 9 à 17 degrés au meilleur de la journée demain après-midi.
Merci ma chère Anissa, passez de belles fêtes.
Vous aussi, je suis là
merci.
Lundi.
Mais moi je suis là lundi. Ah bah vous êtes là lundi,
voilà,
bah, formidable, on sera ensemble. On reste fidèle au poste, merci Anissa. 19h13, dans quelques secondes les grands chefs à l'honneur, on va vous aider à réussir, vous allez voir vos dîners de réveillon. Mais d'abord le parti pris ce soir de l'entrepreneur Philippe Manière.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Philippe Manière.
Bonsoir Julien.
Entrepreneur, essayiste, libéral convaincu. Vous voulez nous parler ce soir des SPAC. On connaissait les fameux Mister Spock de Star Trek, le fameux Mister Spock de Star Trek, mais un SPAC, qu'est-ce que c'est?
En fait, dans le fond, vous allez voir que vous n'êtes pas très loin du compte avec Mister Spock, puisque les SPAC, c'est ce que j'appellerais des ovnis boursiers. SPAC, c'est l'acronyme de Special Purpose Acquisition Company. Concrètement, c'est une société qui entre en bourse, bon ça on connaît, mais avec une particularité troublante, elle n'a aucune activité, aucun historique, pas de personnel. Elle a seulement un projet, le projet d'acheter un jour une entreprise qui, elle, fonctionne, tourne, mais on ne sait pas laquelle. Donc, investir en bourse dans un SPAC, c'est un peu faire un chèque en blanc, c'est d'ailleurs leur surnom, hein, les SPAC, les Blank Check Companies, un chèque en blanc à quelqu'un au flair duquel vous faites confiance, mais avec aucune garantie, si ce n'est celle quand même qu'il vous rendra l'argent s'il ne trouve rien à acheter dans les 2 ou 3 ans. Alors, vous me direz, bon, c'est curieux, c'est quand même assez technique. Faut-il vraiment que je m'y intéresse?
Alors, faut-il vraiment s'y intéresser, mon cher Philippe? Vous allez me dire oui.
Je pense que oui, justement. Et il y a 3 raisons au moins pour ça. La première raison, c'est que certains SPAC aujourd'hui sont énormes. Hein. Le plus gros actuellement, c'est celui du milliardaire Bill Ackman qui a levé en bourse 4 milliards de dollars. 4 milliards, c'est quand même à peu près 2 fois la valeur de BIC ou d'Air France. Vous voyez la force de frappe. Autre raison de suivre le phénomène, les SPAC ont longtemps été anecdotiques, il n'y en avait pas beaucoup. Là, ils sont en train de pulluler aux États-Unis. 272 sont apparus depuis l'été 2018, donc pas loin d'une centaine seulement cette année. Tenez-vous bien, il s'en est créé plus d'1 par jour en juillet dernier. et on compte ce soir 193 SPAC actifs et en chasse. Alors c'est au point, Julien, qu'il y a eu cette année à peu près autant d'argent levé à New York par cette voie bizarre que par les introductions en bourse d'entreprises classiques. C'est assez dingue. Enfin, le SPAC, c'est de moins en moins exotique puisqu'il y a déjà eu deux SPAC en Bourse de Paris, dont l'un vient d'être lancé par les millionnaires Mathieu Pigas et Xavier Niel. Vous voyez que ça se rapproche.
D'accord, on a compris pour l'enjeu, mais comment peut-on lever autant d'argent si c'est une coquille vide?
C'est un peu le sujet. Alors, il y a d'abord une dimension statutaire. Avoir son SPAC à Manhattan aujourd'hui, pour tout milliardaire qui se respecte, c'est un must. Ça remplace un peu, ou plutôt ça s'ajoute, à la limo de 15 mètres ou au triplex de 700 mètres carrés. Mais il y a plus que la mode. Le SPAC, c'est aussi le moyen qu'a trouvé la bourse pour reprendre la main par rapport à un concurrent qui est en train de lui tailler des croupières, les fameux fonds, vous savez, de private equity, ces fonds qui achètent et qui revendent des entreprises après les avoir développées, mais sans passer par la bourse, justement. Et cette concurrence, elle est en plein boom et elle explique que sans qu'on s'en aperçoive vraiment, eh bien, le nombre d'entreprises cotées baisse. Il a baissé d'un tiers, parfois de la moitié, depuis 10 ou 20 ans sur la plupart des grandes bourses. Eh oui. Alors le SPAC, c'est un nouveau témoignage en fait, de l'extraordinaire ingéniosité du marché qui rentre toujours par la fenêtre quand on le sort par la porte. D'ailleurs, si vous allez voir sur le site web du New York Stock Exchange, c'est assez curieux, vous verrez que dès la page d'accueil, on y vante les SPAC sur le mode « Venez faire votre SPAC chez nous ». Dit autrement, Julien, et pour revenir non plus à Star Trek, mais à Star Wars, eh bien le SPAC, c'est l'Empire qui contre-attaque.
Mais donc le SPAC, merci pour ce bon mot, le SPAC, c'est un fonds d'investissement en somme.
C'est pas un fonds d'investissement, c'est effectivement, vous le disiez, une coquille vide. On se dit, tiens, je crois à ce gars-là, il y a Julien qui met son SPAC en bourse, j'y vais, puis il achètera un truc qui me plaira.
Ouais, et on arrive à lever 4 milliards de dollars en faisant ça.
Il y a des gens qui y arrivent.
Eh bien, dites donc,
allez-y.
Je devrais changer de métier. Merci Philippe Manière pour ces explications. On apprend des choses avec vous. Merci à vous.
Europe 1. Julien Bugier.
19h17, dans quelques secondes, le débat du Club des Idées. Et ce soir, en guise de débat, on vous propose de vous faire plaisir avec un plateau spécial grand chef. Tous en cuisine, on met son tablier pour bien réussir son réveillon. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h20, ce soir dans le débat du Club des Idées, on va se faire plaisir à quelques jours des fêtes de fin d'année. Vous êtes peut-être dans votre voiture ou à la maison à réfléchir à votre menu de Noël. Eh bien, on va vous donner toutes les clés et puis des idées aussi. Comment se faire plaisir malgré les contraintes sanitaires? On ne peut pas aller festoyer au restaurant. Mais qu'à cela ne tienne, faisons venir à nous les palaces et les restaurants étoilés. Alors, on en parle ce soir avec des virtuoses de la bonne gastronomie et du savoir-vivre. Nina Métayer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef pâtissière nouvelle génération puisque vous vendez uniquement, je crois, en ligne, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et votre pâtisserie s'appelle Délicatisserie.
Oui, tout à fait.
On en parlera. Christian Lesquière, bonsoir.
Bonsoir.
Grand chef, chef cuisinier, 3 étoiles au célèbre Georges V. Vous, vous êtes fermé en ce moment?
Eh oui, désolé, nous sommes fermés pour ces fêtes de fin d'année, étant donné
Mais on va voir qu'il y a peut-être un moyen quand même d'avoir accès à votre cuisine et au menu incroyable que vous proposez, notamment pour le réveillon du 31. Manuel Perrondet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes meilleur sommelier de France 2008, meilleur ouvrier de France 2011 et président et fondateur de Chef d'œuvre.
C'est ça.
Chef d'œuvre, en deux mots. Hein.
Oui, voilà. C'est H.I.S. Oui.
Exactement, on va en parler. D'abord, peut-être un mot de chacun. Comment vivez-vous, vous, cette période si particulière, chef?
Pour moi, depuis le mois de mars, quand même, je n'ai pas travaillé. Ça va faire bientôt 8 mois, 9 mois. Donc, c'est un peu long, hein. c'est très long.
Mon grand-père était restaurateur, il disait ne pas cuisiner, c'est un crève-cœur. C'est comme ça que vous le vivez aussi?
Un peu comme ça. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer en Bretagne parce que je suis d'origine bretonne. Donc, j'ai pu faire la saison d'été, on va dire. J'ai été saisonnier, en fin de compte, au moulin de Rosbadeg à Pont-Aven. Donc, j'ai repris un peu ces fourneaux pour aider un jeune que j'ai installé.
Ouais.
Donc ça m'a permis de rester quand même dans les cuisines. Et parce que bon, on va dire, un chef de cuisine, c'est comme un parfumeur. Il faut qu'il s'entraîne tous les jours pour que le palais soit au top.
Oui, bien sûr. Il ne devait pas emmener large, le petit jeune que vous avez...
Comment ?
Il ne devait pas emmener large, le petit jeune,
mais d'avoir si,
le chef formateur
jeune chef
derrière
de 32
lui dans les
ans,
fourneaux.
32 ans, qui avait travaillé, qui était un de mes sous-chefs au Georges V. Puis là, on a décidé justement qu'il voulait retourner dans sa Bretagne, donc Pont-Aven. Ouais. Il n'est pas parti faire des galettes, mais il est parti faire de la
haute cuisine. J'en ai entendu parler de cet établissement. Il paraît qu'il est formidable. Donc votre brigade est en chômage partiel en ce moment?
Exactement. Tout le monde est travaille de temps en temps, mais c'est très rarement.
Bien,
parce qu'on fait, un peu
aussi
de room service dans les palaces.
Oui. Nina Métayer, vous êtes en pleine activité, là, parce que vous vendez uniquement, par livraison. Donc on réserve, c'est ça, on achète sur le site internet et puis on se fait livrer après à domicile?
C'est ça. Alors, moi, c'est une idée qu'on avait eue avec mon mari, avec qui j'entreprends ça, il y a déjà plusieurs années. Et c'est vrai que ça a accéléré un petit peu, ça a accéléré la chose parce que c'était le moment de se dire, voilà, on se dépêche parce que les gens, ils sont beaucoup plus respectifs.
Et ça fonctionne ?
Ah,
et ça
oui.
fonctionne ?
Ouais. Oui, oui, les gens sont très réceptifs. Ils sont... Et du coup, ça a ouvert une nouvelle manière de vendre.
Vous avez combien de salariés ?
Alors là, j'ai 2 salariés fixes et puis on est en extra. Là, du coup, j'ai recruté des
oui, parce que la demande est exponentielle, évidemment,
voilà,
j'imagine.
Là, des pour les fêtes, exactement.
Et c'est vous qui êtes au fourneau aussi, j'imagine.
Oui, oui, bien sûr.
C'est vous
évidemment.
Qui faites les recettes, qui faites les créations.
Oui, oui.
Bon, vous allez nous en parler, c'est un métier absolument passionnant. On avait envie de partager ça aussi avec nos auditeurs et nos auditrices. Manuel Perrondet, vous aussi, je crois que vous avez une activité en ligne. Hein.
Oui, alors on est très digital et nous, on a vraiment explosé. Alors c'est un petit peu vrai, malheureusement, en opposition avec la restauration, mais c'est vrai qu'on a réussi à améliorer évidemment la croissance de notre entreprise et elle a explosé vraiment en mars. On avait vraiment le sentiment que les gens étaient connectés, qu'ils avaient envie d'apprendre et on a même amené les expériences chez eux. Donc maintenant, on fait des cours d'œnologie digitaux avec plus de 100 personnes.
Des cours d'œnologie digitaux à distance.
Les gens reçoivent les vins à la maison et on est parti sur une centaine de personnes.
Formidable,
avec
ça.
Des intervenants, etc. Donc on voit que le digital peut permettre de faire des choses merveilleuses. Et puis aussi, il a fallu quand même un peu combler le manque de joie du public. Et donc, on a vendu beaucoup de choses. On a créé des expériences autour du vin.
Même dans une activité comme celle de la restauration, de la gastronomie, du bon goût, on peut fonctionner, fonctionner en digital et à distance. J'allais même aller plus loin. C'est même nécessaire aujourd'hui ?
Alors, non seulement c'est nécessaire, mais en plus, la mayonnaise prend très, très bien. Et ça, je pense que c'est aussi un mindset, une envie du public qui a envie vraiment aussi de vivre, de continuer de vivre des expériences et de vibrer avec des choses qui leur font vraiment du plaisir. Et le vin, en ça, permet plein de choses, à la fois du networking avec les gens qui sont dans leur groupe, mais aussi des plaisirs personnels, puisque c'est aussi un plaisir sensoriel, le vin.
Bien, merci pour cette introduction. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment bien choisir, quel menu choisir pour les gens qui nous écoutent pour la Noël et puis pour le soir du réveillon. Je voudrais d'abord vous faire partager une petite pépite, une archive. Ça va vous faire plaisir, chef. Paul Bocuse, qui donne un menu type en 1976 avec Marthe Mercadier.
On va faire le menu parce que qu'est-ce qu'on va manger avant une dinde à nos marrons ? C'est quand même un plat consistant. On peut manger quelques huîtres et puis derrière, on va pouvoir mettre une petite salade mélangée où on mettra un petit peu de mâche, un peu de betterave, un petit peu de noix, une bonne salade mélangée pour manger avec la dindonne. Et puis je pense qu'on va sauter le fromage.
Ah bon ?
Oh oui, il n'y a pas besoin de fromage parce
non.
que le fête de Noël...
Il va y avoir un bon dessert.
Et oui, le dessert, ça peut être une bûche glacée et puis peut-être avec des oranges épluchées à vif, l'orange et le chocolat, c'est une chose qui se marie très très bien.
Oui, c'est très fin.
Voilà, on pense évidemment à Paul Bocuse et à ses proches et
c'est
à sa famille.
C'est vrai que M. Paul, déjà à l'époque, il était extrêmement moderne.
Oui, oui. Mais c'était le début de la nouvelle cuisine, le milieu des années 70. Mais quand même, quand on écoute le menu qu'il nous propose là, en 76, c'est un peu le même aujourd'hui, chef.
On n'a pas changé. Mais pourquoi changer quand c'est bien fait ?
Ouais.
C'est vrai qu'on commence toujours, on va dire, par la mer, quelque chose de iodé, je pense, quelque chose qui apporte, qui ouvre le palais. Et après, je crois que la tradition reste dans toutes les familles. Parce qu'on a été élevé par une tradition. Je crois que la tradition fait que vous prenez une dinde ou une poularde, une volaille, ça plaît à tout le monde. Accompagné de marrons, et peut-être pour les gens qui sont un peu plus ambitieux, d'une purée de céleri ou autre chose, dire des racines, c'est très bien.
Alors, vous allez nous aider dans quelques secondes à choisir la volaille. Comment est-ce qu'on choisit une bonne poularde ? Comment est-ce qu'on choisit une bonne pintade ? Un bon chapon ? Gardez vos réponses parce qu'on a encore plein de questions à vous poser. On en parle dans quelques secondes, 19h27, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 19h30, on continue de se faire plaisir ce soir à quelques jours des fêtes de fin d'année avec nos invités pour vous aider à bien choisir vos plats d'exception. On est notamment avec le grand chef cuisinier 3 étoiles, Georges V, ça se trouve à Paris, Christian Lesquer, qui va nous dire comment on choisit son chapon ou sa pintade. Chef, comment fait-on ? On est au marché, devant l'étal, on est chez le boucher, comment on fait ?
Je crois qu'il faut faire confiance justement à son volailler qu'on a l'habitude d'aller régulièrement. Je crois que ces artisans ont un bon goût, un bon choix. Bon, c'est sûr que c'est une question de prix, la poularde. Vous prenez une poularde de Brest qui est un peu toute chère au kilo. Après, vous avez des volailles un peu moins chères. Moi, j'aime beaucoup une bonne poularde, un beau chapon des Landes. Ça me voilà. Donc, faut qu'il soit bien dodu.
Vous allez me dire si je suis dans le vrai. J'ai vu qu'un chapon, pour bien le choisir, faut qu'il ait une forme arrondie au niveau des cuisses et des blancs, et que sa peau doit être fine et de couleur nacrée.
Voilà.
Et est-ce
surtout,
que c'est ça ?
C'est ça, nacré, et surtout avec beaucoup de gras qui va la nourrir. Ça va graisser le blanc lors de la cuisson. Donc, faut que ça soit un peu gras. Hein. Un chapon, faut que ça soit gras, de façon que ça, on le cuit lentement, et faut que le suprême soit bien dessiné.
Oui.
Bien, bien, bien épais.
Alors, il y a une recette qui est célèbre. Vous vous souvenez de Maïté ? Maïté, la cuisinière de la télé. Mais... Voilà. Elle aimait nous.
Elle était des Landes.
Elle était des Landes. Le chapon cuit à la broche farcie au foie gras en 1989. Et elle le dit avec ses mots à elle, écoutez.
Maïté, nous avons une bien belle bête devant nous.
Oui.
C'est un chapon.
C'est un beau chapon.
Et qu'allons-nous faire avec ce chapon?
Eh bien, on va faire un chapon cuit à la broche et farci au foie gras. Alors, un chapon, c'est un gros poulet qu'on châtre à la naissance.
Oui, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait exactement?
Bon, écoutez, moi, je vais vous dire comment je dis. On lui enlève les cocoyes. Eh bien, on va le remplir de notre bonne farce. On va pousser et après, on va la coudre. Et on va nous embrocher, le faire cuire à notre charmante cheminée.
Ben voilà, c'est simple comme bonjour, Manuel Perrondet. Vous êtes meilleur sommelier de France et meilleur ouvrier de France. Et vous êtes président et fondateur donc de chef-d'œuvre qui propose des dégustations et de la vente de vin, notamment en ligne. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, avec un bon chapon?
Ah, il faut des chairs fines. Hein. Enfin, avec les chairs fines, pardon, il faut des vins fins. Donc, dès la puissance diffuse, on peut mettre... Alors, il y a plusieurs options. Ça dépend un petit peu des garnitures, voire des jus. Mais si on préfère les blancs, on peut accompagner les blancs. Les volailles de ce type avec un blanc qui est un peu de chair, les grands chardonnays un peu onctueux qui tirent sur la châtaigne, la noisette, comme ça peut marcher, hein, surtout si on a des châtaignes par exemple en accompagnement. Mais sinon, après, c'est le rôle du pinot noir ou alors pourquoi pas d'un joli gamay. C'est aujourd'hui une révélation dans le Beaujolais par exemple. Et donc, si on a affaire à des gens qui font des vins très fins, on peut faire beaucoup de beaux mariages avec ça.
C'est quoi les règles de base pour choisir un bon vin quand on n'est pas forcément un connaisseur hors pair?
Alors, il y a évidemment un engagement en viticulture déjà de la part de celui qui produit la bouteille. Ça, c'est important. Donc moi, j'encourage bien sûr les gens à être un petit peu à cheval sur ça, puisque on le sait, les meilleurs raisins font les vins les plus émouvants et les plus, d'un point de vue sensoriel, les plus engageants. Donc ça, c'est le premier conseil. Ensuite, tout dépend du budget et tout dépend des régions. Ceux qui veulent faire des fêtes Noël avec beaucoup de plaisir sans dépenser beaucoup d'argent, c'est tout à fait possible. Moi, je leur conseille d'aller dans les régions où le foncier n'est pas très cher, le foncier viticole. Vous êtes de Blois, vous savez que la Loire est une région extraordinaire pour le vignoble français et que, bah, par exemple, à Mont-Louis, à Vouvray, pour une quinzaine d'euros, vous avez des bouteilles extraordinaires.
Cheverny aussi.
Vous avez l'embarras du choix. On peut vraiment trouver des belles bouteilles pas très chères.
Vous êtes branché vin bio, vin nature, vous?
Alors, vin bio, oui, nature, attention, c'est aussi une frange du vin sur laquelle il faut éviter de tomber parfois, parce que ce qu'il faut dans le vin...
C'est sans sulfite ajouté, on le rappelle à nos auditeurs.
C'est des fois un petit peu glissant, des fois les bouteilles se dévient un petit peu.
Il y a des grands chefs qui s'y mettent. Hein,
tout à fait.
C'est une mode. À l'Arpège, par exemple, chez un de vos confrères, Alain Pastard, il a la moitié de sa cave qui est en vin nature quasiment maintenant.
Oui, c'est important. En fin de compte, les vins nature arrivent au galop, finalement. Je crois que ça fait partie de tous les circuits courts qu'on peut avoir, justement, et de faire attention quand même ce qui rentre dans cette nature.
Oui.
Et les gens sont très attentifs.
Après, c'est vrai qu'il y a un palais particulier. Il faut aimer. Et puis, il y a eu un peu une escroquerie au début. C'est-à-dire que...
Disons qu'il y a eu tout et n'importe quoi. Donc, c'est là qu'il faut trier. Maintenant, c'est vrai qu'on maîtrise un petit peu mieux ce genre
mais
de vinification.
Mais il n'y a pas un thème sommelier qui dit le vin à la cuisse ou quelque chose pour... c'est mon ami Eric Beaumard qui me dit « Ah, mais ce vin, il a de la cuisse, ça y va.
» Alors, il faut qu'il ait de la cuisse, mais il faut qu'il sente quand même le fruit. Quoi. Et donc, c'est ça
la gourmandise.
Voilà, il faut qu'il soit précis quand même.
Ça vaut quoi, le chapon cuit à la broche farcie au foie gras, comme nous disait Maïté.
C'est généreux en gras.
Ouais, c'est généreux.
Non, mais ça
on cuisine ça encore dans une grande cuisine, parce que maintenant, on est dans une cuisine plus légère.
Je crois qu'on fait quand même plus attention au gras, justement. Oui. On fait une cuisine qui permet d'être en forme. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que ces deux produits ensemble, on essaye de les séparer de façon à avoir soit la volaille pour le lendemain et le foie gras la veille. On essaye parce que Maïté, quand elle faisait de la cuisine, c'était généreux.
C'était généreux. Nina Métayer, on va parler des desserts. Vous êtes chef pâtissière avec vous dans quelques secondes. Encore chef sur le foie gras, par exemple, qui est un produit qui est très plébiscité par les Français au moment des fêtes de fin d'année. Comment bien choisir son foie gras, là encore?
Alors, on dit
qu'il y a le goût qui joue, il y a la faible quantité de graisse, l'absence d'additifs, la chair lisse, souple, résistance.
C'est ça, vous posez votre doigt justement, il doit un peu comme un foie de veau. Le foie gras, quand vous le faites pocher, vous pouvez le faire pocher à chaud, faut pas trop chaud, mais ça doit avoir la consistance d'un bon foie de veau. Et quand, ça veut dire que ça monte la fraîcheur. Bon, à Noël, vous avez souvent des foies qui sont en terrine. Je pense qu'il faut faire confiance justement à l'origine du foie qui est bien français. Et bon, après, maintenant, faire confiance quand même à tous ces artisans du bon goût. Vous allez, moi, je vais au marché de Passy ou à autre marché, vous avez des gens qui ont des super foie gras.
Oui, j'ai vu que les Français, dans une étude récente, là, c'est un peu toujours les mêmes standards quand pour les fêtes de fin d'année. Le foie gras en entrée pour 63% des Français. Ouais. Chapon, dinde ou poularde, on l'évoquait tout à l'heure, 37% le choisissent pour le plat principal. Ouais. Et puis la bûche, évidemment, c'est 73% des Français qui disent qu'ils mangent une bûche au moment
du réveillon de Noël. Les gens sont classiques,
sont
traditionnels.
C'est assez classique.
On pense que c'est un moment, on est en famille, il y a les enfants, il y a la grand-mère. Il y a tout le monde, ça veut dire faut que le palais soit pour tout le monde. Donc tout le monde reste classique.
Alors,
je pense que même au niveau du vin.
J'ai été regarder, chef, votre menu d'exception, évidemment, pour la Saint-Sylvestre, que vous livrez d'ailleurs.
Oui. Avec mes chefs, on va livrer justement tous les particuliers. Livraison en domicile et surtout on va le faire en room service.
Bien, pas dans toute la France, malheureusement.
Non, ça va être difficile.
Il faut venir en région parisienne. Homard, graines de caviar, galets de foie gras, copeaux de truffe, poularde infusée à la truffe racine. Étuvée, tarte fine au vieux comté concassé de noix et chocolat tulle-calume, sarrasin grillé, fleur de sel. J'ai bien résumé ?
Parfait.
Bien. Et ma question est la suivante. Quand on regarde votre menu, on se dit là aussi, ça ne bouge pas beaucoup. Il faut des produits de luxe pour faire un bon repas de fête et de fin d'année ?
Oui, mais il faut des beaux produits parce que je pense que c'est un moment, surtout cette année, c'est un moment exceptionnel. Je crois que on reste aussi un peu dans la tradition, mais vous prenez un galet de foie gras, c'est, on va dire, c'est la star du restaurant 3 étoiles.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a plus qu'à réchauffer à la maison, chez vous. Donc, vous avez toute la fiche technique. On a fait des essais, des recherches et développements.
On ne perd pas en qualité entre la table, si je viens manger dans votre restaurant, et si je me fais livrer ?
C'est pareil.
C'est
simplement, on laisse justement, on va laisser, on va dire, la personne qui va recevoir nos produits, crayonner, dessiner comme un artiste, c'est lui qui fait la cuisine chez lui. Donc, c'est lui qui va jouer l'artiste.
Vous nous mettez le goût en bouche, là. On est en train de saliver à vous écouter. 19h38, on se retrouve dans quelques instants. On va passer à la fin du repas, au dessert, avec Nina Métayer qui va nous expliquer comment ne pas rater son dessert de fin d'année. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h40, on continue ce soir dans le débat du Club des Idées de se faire plaisir et de parler des menus de fête de fin d'année avec des professionnels de la gastronomie qui sont à mes côtés en studio. Je voudrais vous faire partager encore une petite pépite de nos archives. Vous savez qu'on en a plein dans nos armoires à Europe 1. Claude Terraille, propriétaire de la Tour d'Argent en 1966. Ça ne nous rajeunit pas. Message aux maîtresses de maison à l'approche de Noël. C'était une autre époque, évidemment. Écoutez.
Le menu, bien entendu, je pourrais vous faire 1000 propositions différentes. Mais je veux laisser ce soir à chacune d'entre vous, vous maîtresses de maison, le soin d'imaginer, selon son cœur, ce qu'elle a décidé de servir à ses invités. Et je dirais toujours une chose qui est vraie. Le meilleur des foie gras ne remplacera jamais le message du cœur.
Voilà, Christian Lesquer. Le foie gras. Le meilleur des foie gras ne remplacera jamais le message du cœur. C'était une autre époque, parce qu'à l'époque, c'était, disait-on, les ménagères qui cuisinaient. Aujourd'hui, heureusement, les époques ont bien changé.
Il n'a pas dit les ménagères, il a dit les maîtresses de maison.
Les maîtresses de maison. Mais on considérait que c'était les femmes qui cuisinaient. Aujourd'hui, les choses ont changé. Moi, par exemple, c'est plutôt moi qui cuisine.
Moi, je fais le repassage.
Vous faites le repassage.
De la nappe.
Bien.
Je mets le couvert.
Mais on a quand même une cuisinière avec nous ce soir. C'est Nina Métayer, chef pâtissière nouvelle génération, car vous vendez, je le disais tout à l'heure, uniquement en ligne. Votre pâtisserie s'appelle Délicatisserie.
Oui,
c'est
tout
ça
à fait.
Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez, vous, pour un dessert réussi pour ces fêtes de fin d'année ?
Alors moi, je vous conseille aussi, je suis d'accord, quelque chose d'un peu classique qui réunit tout le monde. Parce que c'est important, quand on se réunit, de s'adapter à un peu toutes les générations et puis d'avoir quelque chose qui
soit... Alors, qu'est-ce qui fait consensus ?
Alors, le chocolat en général. Le chocolat réunit un petit peu tout le monde. Mais il faut rajouter un peu de fruits. Parce que le tout chocolat, à la fin du repas, il faut prendre conscience aussi que c'est un repas en général où on a bien mangé, on a bien bu aussi, on a vu des bonnes bouteilles, on a mangé un bon chapon justement, du foie gras, plein de beaux produits.
Et comment vous le travaillez, le chocolat ? Est-ce que c'est une tarte ? Est-ce que c'est un fondant ? Est-ce que c'est un souffle ? Non, pas
dans
souffler.
La légèreté, plutôt dans la légèreté, une petite mousse légère avec une crème montée, vraiment pas trop montée, très très légère. Peut-être des petits dés de poire caramélisés, un petit croustillant sablé de chocolat avec une pointe de fleur de sel.
Donc on est dans une composition, les fruits à côté, la mousse au centre.
Alors moi je verrais plutôt une belle bûche à découper.
On a envie de s'y croire.
Non, une belle bûche à découper, une bûche, moi j'aime bien les bûches classiques aussi, dans la forme d'une bûche où on a des belles parts de bûche avec une mousse chocolat qui vient enrober une petite insert de poire caramélisée.
Pas mal.
Avec un petit croustillant.
Vous validez, Christian Lesquer ?
Ah, moi j'arrive de la campagne. Avant, on commence toujours par une orange. Ah. C'est la tradition chez moi. Une orange. Il y a toujours des belles oranges parce que c'est la période. Et après, je suis sur des desserts gourmands, légers. Bravo.
Bien. Et qu'est-ce qu'on boit alors avec ça, Manuel Perrondet?
Avec le dessert de
Nuit. Avec le chocolat, voilà. Avec la bûche, avec cette légèreté, cette douceur des fruits.
Il faut un atterrissage en douceur, c'est clair. Alors le chef Christian dit que c'est l'orange, sa Madeleine de Proust et son repère. Moi je dirais que ce serait l'orange liquide. Alors je vous amènerai à Rivesaltes et puis je vous dirai qu'un bon Rivesaltes ambré, qui a une quinzaine d'années, c'est très abordable, c'est délicieux. C'est aussi le vin qui fait la transition, pourquoi pas depuis le fromage jusqu'à ce dessert. Ça va apporter des petites connotations d'orange confite, des choses comme ça qui me marient également très bien avec le chocolat. Et puis c'est surtout aussi le grand vin qui vous accompagne jusqu'à la fin de soirée, en mode méditation, à côté de la cheminée par exemple. Voilà.
Ah, c'est sympa ça, c'est sympa. On a oublié de dire un truc important tout à l'heure, je pense. Quand on a envie de trouver un bon vin, oui, et qu'on n'est pas forcément un expert, mais il dit qu'il faut se tourner vers les bons viticulteurs, mais il faut aussi se tourner vers le bon caviste quand on a la chance d'en avoir un autour de chez soi.
Ils sont très nombreux.
Et plutôt privilégier le caviste indépendant que la grande surface.
Alors c'est vrai que même si les grandes surfaces ont fait des efforts depuis quelques années sur la sélection de leurs vins, on s'est tous retrouvés un jour dans une grande surface avec cet étalage de vins absolument dingue et sans conseil. Maintenant, effectivement, il y a des cavistes indépendants qui ont des véritables
et qui
sélections.
Valorisent plutôt les petites productions.
Effectivement,
aussi.
Effectivement, il y a ce réseau des vins des régions qui sont souvent autour de là où on habite. Et là, on voit bien qu'ils découvrent des produits merveilleux, des fois des jeunes talents, des nouveautés. Donc c'est ça, il faut leur faire confiance.
Et j'ai une question aussi à vous poser. On dit communément que quand on attaque le fromage, on est plutôt sur le rouge. Erreur. On peut filer avec le vin blanc.
Exactement. La protéine du lait précipite avec les tanins des vins rouges. Peu de gens le savent, mais globalement, si vous avez un grand blanc avec de la texture, vous ferez le home run avec tous les fromages quasiment.
Le quoi vous dites ?
Le home run.
Le home run.
Il va faire
comme le football américain,
exactement,
c'est ça ?
Exactement, parce que le grand blanc, il passe sur toutes les pâtes pressées cuites, les pâtes pressées non cuites, sur plein d'autres choses.
Oui, j'ai dit football américain,
crémeux,
c'est baseball, sur du chèvre, me fait-on remarquer dans l'oreillette.
Après, il y aura le bleu qui va peut-être lui amener un obstacle. Mais voilà, moi, si j'ai un seul conseil à donner aux gens, ne prenez pas trop de fromage. Essayez de choisir quelques fromages de certaines familles qui fonctionnent bien et un grand vin, c'est tout.
Je suis d'accord, comme avec un bon vin blanc, on va dire avec un beau chapon, c'est quand même très élégant.
Et oui, bien sûr.
C'est très raffiné. Voilà. Quelques lamelles de truffe, parce que c'est Noël ou c'est le 31, qui la vie est belle.
Est-ce qu'on peut réussir à composer un repas de fête avec tous les produits qu'on vient de se dire, dans un budget limité, en privilégiant évidemment le Made in France ?
Ah oui. Oui, je crois qu'aujourd'hui, oui, on va dire, vous avez en Ile-de-France, je prends Paris déjà, vous avez en Ile-de-France des sacrés maraîchers. Vous avez quand même des beaux produits en France quand même. Mmh. Hein, je crois que ne serait-ce que faut manger français pour cette année, je veux dire, c'est pas la peine d'aller chercher, on va dire, son foie gras en Pologne. Hein. Il y a des fermes en France, même en Bretagne, vous avez des super...
Alors, il y a une particularité cette année que les Français vont globalement respecter, et c'est tant mieux, c'est 6 à table, pas un convive de plus, a priori, après on peut faire des exceptions, mais 6 adultes à table, c'est plutôt un avantage, car ça va nous aider à faire peut-être des petites portions, à éviter, vous savez, les grands buffets qui n'en finissent plus, là, avec les 15 convives, et peut-être à se concentrer sur l'essentiel.
C'est un peu difficile, parce que moi, j'ai commercialisé des chapons pour 8 personnes.
Ça va lever les gourmands, alors.
Bon, faut qu'ils soient, mais non.
C'est parfait, alors.
Voilà.
Oh, alors, 6, 8, il en reste un petit peu.
Le lendemain.
Donc, vous avez adapté aussi à...
Oui, on a adapté, justement, au lieu de prendre des gros chapons, on a pris des chapons qui faisaient à peu près entre 2,5 kg et 8 kg. Et puis,
c'est
on a mis un
COVID.
Kilo de farce.
C'est des chapons Covid. Ils n'ont pas le Covid, mais ils sont faits pour...
Ils sont faits, justement, pour être reçus pour 6 personnes. 8 grands mangeurs.
Bien. Et le vin, c'est pareil ?
Moi, je vous dis qu'avec 60 euros pour 6, il faut 4 bouteilles. Ça fait 15 euros par personne et vous pouvez faire des choix merveilleux. Un bel effervescent, par exemple, de Loire, de Vouvray. Un bel aligoté pour faire de Bourgogne, par exemple, du nord de la Bourgogne, pour aller chercher un peu l'iode, les huîtres, les escargots, la dimension un peu aillée, des petites choses comme ça qu'on aime bien. Vous pouvez faire après un rouge très tendre, très parfumé, ou alors une belle Syrah de la vallée du Rhône-Nord, par exemple autour de Saint-Joseph et autres. Et puis vous terminez avec, voilà, que je vous disais tout à l'heure, un beau Rivesaltes ambré. 60-65 euros, 4 bouteilles, vous avez de quoi vraiment vous régaler. La question n'est pas une question de budget.
Bon, formidable. On mettra tout ça en ligne sur le site Europe 1 pour ceux qui sont dans leur voiture et qui se disent « Attendez, j'ai pas tout écouté, ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver ça en ligne. » Nina Métayer, qu'est-ce que vous conseillez ? S'il y a la bûche, on l'a compris tout à l'heure, mais peut-être une version plus light, plus simple.
On peut simplement s'amuser aussi avec des fruits simplement découpés. On a les agrumes, on a plein de belles choses. On peut faire aussi un dessert un peu plus léger, peut-être peut-être faire des granités qui vont venir assaisonner une petite salade de fruits avec quelque chose, avec des poires, des pommes, des agrumes. Enfin, on a plein de belles choses. Voilà, une petite émulsion de fruits.
Pour finir, puisqu'on parle de bûches de Noël, je voudrais finir avec une dernière petite archive, un clin d'œil à quelqu'un qu'on aimait bien ici aussi, c'est Jean-Pierre Coff, dans l'émission « Comment c'est fait 92 avec des enfants ?»
Christian, vous allez faire la démonstration devant la petite Emmanuelle qu'on peut faire une bûche de Noël chez soi.
Allez, tout le monde décore la bûche pour finir.
Maintenant, il faut qu'on la goûte, on la goûte, on la goûte. Hein, on la veut goûte. La goûter, nous, non ? Regardez, mes enfants, joyeux Noël ! Regardez comme c'est beau, hein ? Joyeux Noël à tous ! On s'est quand même pas donné du mal pour rien.
Voilà, on s'est pas donné du mal pour rien, bah nous non plus. Bon appétit à tous et joyeux Noël. Belle Merci. Fête de fin d'année à ceux qui ont l'occasion d'en prendre. Merci d'avoir participé à cet échange avec moi dans Europe Soir. 19h48, on se retrouve dans quelques instants avec nos archives. Mais pour parler d'un tout autre sujet, la folle aventure de l'avionneur Airbus qui fête aujourd'hui déjà ses 50 ans. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du Club des idées d'Europe Soir, les archives maintenant comme chaque soir à 19h50 pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle le jour où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà. Attachez vos ceintures. Bonsoir Aurélien Fleureau.
Bonsoir Julien.
Il y a tout juste 50 ans, 18 décembre 70, écoutez bien ce bruit, était créé Airbus Industrie, la concrétisation d'un accord franco-allemand signé en 1969. Au Salon du Bourget.
Oui, 50 ans d'existence pour l'entreprise Airbus. Mais il faut dire que cette idée d'un avion commercial européen pour lutter face à la domination américaine, eh bien, elle germe depuis le début des années 60 et l'expansion du transport aérien de masse. L'Europe va se positionner sur les courts courriers de 200 places pour éviter la concurrence directe avec le 747 de Boeing. Ce sera l'A300, le 12 décembre 1968. Henri Ziegler, PDG de Sud Aviation, explique sur Europe 1 les changements entraînés par ce nouveau type d'avion.
Le problème qui pose, c'est celui des aérogares. Il faut un dessin moderne des aérogares avec des rampes d'accès multiples et aussi des systèmes pour faire circuler les bagages rapidement de façon à ce qu'on n'attende pas son bagage pendant une heure à la sortie.
Bah oui, évidemment. Et ce projet Airbus, c'est aussi un enjeu politique pour l'Europe.
Oui, dès le début, l'enjeu est d'une ampleur inédite. Pierre Messmer, Premier ministre, en septembre 1972.
Nous avons aujourd'hui devant nous les produits d'une Europe rassemblée. Nous pouvons, si nous le voulons, créer enfin, ensemble, un marché européen du matériel aéronautique.
Alors, les débuts sont difficiles. Hein. Il faut attendre 1978 et la commande de 23 A300 par la compagnie américaine Eastern Airlines pour permettre aux Airbus d'enfin décoller et même, on peut le dire, hein, de sauver le programme.
Oui. Et puis, les années 80, l'arrivée des Britanniques et la naissance de la famille des Airbus A320. C'est le blockbuster d'Airbus.
Oui, cette fois, concurrence frontale avec le 737 de Boeing. L'A320 est inauguré en 1987, baptisé au champagne par le prince Charles et Lady Diana. Et dès 1988, eh bien, cela devient le premier grand succès commercial d'Airbus avec Air France.
Alors, on avance dans l'histoire, Aurélien, avec vous. Les années 90 et l'arrivée sur le marché du long courrier.
Oui, avec les programmes A330 et A340, l'entreprise est en train de se consolider, ce qui permet de penser sérieusement à concrétiser un projet de très gros porteur qui est dans les cartons depuis la fin des années 80. Ce sera bien sûr l'A380. Dès juin 2000, Emirates passe la première commande et c'est dans l'immense hangar Jean-Luc Lagardère qu'il est assemblé à Toulouse, où il est présenté officiellement le 18 janvier 2005 en présence de 4 chefs d'État, Tony Blair, José Luis Zapatero, Gerhard Schröder et Jacques Chirac.
L'aventure de l'A380, votre aventure, est une grande réussite pour l'Europe.
Et sur place pour Europe 1, c'est Nicolas Tonev qui découvre cet A380.
Et ce sont des enfants qui ont tiré sur le cordon blanc qui a fait chuter ce rideau et l'A380 est apparu. Il est énorme, il remplit les yeux et il a fasciné tout le monde en attendant la prochaine étape, c'est-à-dire le premier vol.
Et ce premier vol, ce sera 3 mois plus tard, le 27 avril 2005. Il est commenté en direct par Bernard Chabert.
Tout doucement, ils vont le cabrer. Il passe, il arrive devant nous. Il cabre, il quitte le sol. L'A380, le plus grand avion commercial de toute l'histoire, vient de décoller.
Voilà, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, la belle histoire de l'A380 est en train de se terminer. La production va s'arrêter en 2021, mais Airbus est bien devenu, avec Boeing, un acteur incontournable de l'aéronautique.
Ah oui, c'est le succès européen par excellence, hein, à tel point qu'à chaque nouveau projet, eh bien, on parle d'Airbus des batteries ou encore tout récemment d'Airbus de l'hydrogène. Allez, je vous donne deux chiffres pour terminer. Avant la crise sanitaire, un Airbus décollait ou atterrissait toutes les 2 secondes dans le monde. Et puis Airbus a mis 20 ans pour livrer son 1000e avion, alors que les 1000 derniers sont sortis en à peine 30 mois.
Bien, merci pour les archives, toujours passionnant. Merci à vous et très bon week-end.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, Julien Pierce pour le rappel de l'info et Émilie Mazoyer qui va nous faire décoller la tête dans les étoiles ce soir. Avec qui comme
alors,
artiste, ma chère Émilie?
Pas en A380 parce qu'en ce moment,
sûr.
On a du mal à les remplir. Mais on va effectivement décoller et voyager avec plein de duos signés Thomas Dutronc.
J'aime plus Paris.
Sur son album Frenchie, vous vous souvenez sans doute, Julien, il avait invité Iggy Pop, oui. Il avait invité même Billy Gibbons de ZZ Top. Et là, l'album est ressorti avec des duos alors plus franco-français, hein, Jacques Dutronc, Eddie Mitchell ou encore Clara Luciani, Étienne Daho, Philippe Catherine. Il vient nous en parler ce soir.
Eh ben, on sera à l'écoute.
Merci
Émilie.
Beaucoup.
Très bon week-end. Tu pars en vacances tu...
Non, je reste là. Moi, je garde le
T'es
fort.
Là,
bon. Tous les soirs en direct, on va être
eh
bien.
Ben, moi, je serai là aussi. Je serai là aussi à partir de la semaine prochaine. Pas pour toutes les vacances, mais encore un peu avec toi. On t'embrasse, Émilie.
Super,
à tout de suite.
Merci, Julien.
Très belle soirée. Merci de votre fidélité à lundi, donc 18h.